Expert France Bleu Gironde.
Avec ce matin, Oriane Cherrier, vous êtes psychologue clinicienne à l'Institut Michel Montaigne de Bordeaux. Ça se situe Allée Elsa Triolet. Donc, qu'est-ce qu'on y fait?
À
ce nom. Qu'est-ce qu'on y fait dans cet Institut Michel de Montaigne précisément?
Alors, c'est à la fois un centre de consultation. On reçoit les familles, les couples, des personnes en individuel pour différents types de prise en charge avec une panoplie assez variée de thérapies et notamment de thérapies qui sont aujourd'hui, dont l'efficacité est prouvée aujourd'hui scientifiquement. C'est aussi un centre de formation, notamment à la thérapie familiale et de couple et à tout un tas d'autres thématiques que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut.
D'accord.
Montaigne.
Et notamment des ateliers autour du sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
Exactement.
Les pleurs, décoder les pleurs.
C'est ça. Un pôle parentalité qui propose plusieurs types d'ateliers pour les parents. Des ateliers jeunes parents justement où on aborde précisément cette question des pleurs et ensuite des ateliers pour les enfants plus grands autour de la discipline positive, l'éducation bienveillante pour les adolescents aussi. Voilà.
Bien, et donc je corrige effectivement cet Institut Michel Montaigne. Allée Elsa Triolet, non pas à Bordeaux, mais ce nom, mais qui couvre évidemment l'agglomération bordelaise. Et à vos côtés, le docteur François Secato, auteur du livre 1-3 ans et le nouveau sorti chez Mango. Et bon, on continue à grandir à votre rythme avec le livre Votre enfant 3 à 7 ans. On va parler de ces. Alors, on parle des pleurs de bébés ce matin, vaste sujet qui inquiète hein, les nouvelles mamans, les nouveaux papas qui ne savent pas comment réagir, comment faire. Bébé est arrivé et bébé, bah, il pleure parce qu'il ne sait faire quasiment que ça pour s'exprimer ou alerter ses parents en cas de soucis. Est-ce que le regard des pleurs a évolué donc dans l'histoire de la parentalité? Ça change, j'ai l'impression, de génération en génération.
Oui, complètement. On était dans le même encore dans les années 1900, 1940, on avait des manuels de puériculture qui disaient que c'était plutôt bon pour un bébé de pleurer.
Mmh. Ce que vous nous disiez en début d'émission, il fait ses poumons, c'est bon pour
voilà,
la cage thoracique,
c'est ça.
On y va.
Et ensuite, du fait de l'éducation à cette époque-là, on a commencé à dire que si on avait une bonne éducation, il ne fallait pas pleurer et que les bébés... s'il pleurait, c'est qu'il faisait des caprices. Donc, il fallait un peu corriger ses caprices. Et cette notion a beaucoup évolué ces derniers temps, puisqu'on sait que si le bébé pleure, c'est pas pour embêter le monde, c'est juste qu'il ne peut pas faire autrement.
Bien, et sur remontant le temps encore avant, c'était quoi la perception des pleurs du tout petit, des bébés au, je sais pas, 18e, 19e siècle?
Alors, au XVIIIe siècle, c'est Oriane qui avait fait une étude là-dessus. Elle disait que les pleurs des bébés, elle disait ça dans le colloque en juin, que les larmes et les pleurs avaient une connotation plutôt positive. Mm-hmm. Et c'est qu'à partir du XIXe siècle, où on se disait civilisé,
ça change, hein, ouais.
Oui, et on devait être éduqué à réprimer ses larmes.
Et pour quelle raison, Oriane Cherrier, justement?
Avec cette notion de...
Ouais, ce changement, bon, ouais. Finalement, on bascule d'un siècle à l'autre avec deux attitudes face aux pleurs du bébé très différentes.
Oui, parce que les mentalités changent et qu'on était beaucoup dans une idée de pudeur, de retenue de ses émotions à cette époque et à cette période, qui a duré assez longtemps. Et effectivement, on parlait de caprice, du fait que les peuples civilisés savaient réprimer leurs larmes et qu'il était important de ne pas montrer ses émotions pendant longtemps, ça a été ça.
Donc bébé devait lui aussi savoir réprimer ses larmes et calmer ses émotions.
Aussi, et on considérait que l'enfant était un petit sauvage qu'il fallait éduquer et faire rentrer dans les cases...
Et les choses ont bien changé aujourd'hui. Finalement, j'allais dire, cette approche, désolé, je vais mettre ça entre gros guillemets, cette approche moderne des pleurs de bébés, ça date de quand? C'est les années 70, fin du 20e siècle? On commence à changer notre regard ou est-ce que c'est plus récent que ça?
Oui, c'est à peu près ça, et c'est surtout grâce aux découvertes des neurosciences, où on comprend que le cerveau d'un bébé, ça va pas être éduqué de cette façon-là, et qu'il faut au contraire le respecter et accompagner tout ce qui se passe pour le bébé.
Alors que nous disent les neurosciences sur le cerveau du petit garçon ou de la petite fille? Donc un cerveau en cours de construction.
Exactement, avec une grande immaturité, hein, quand le bébé vient au monde, il y a une immaturité cérébrale, et cette immaturité, eh bien, elle va progressivement... il va y avoir progressivement, grâce à tout l'environnement dont on va bénéficier l'enfant, toute la bienveillance dont il va bénéficier, tout le respect de ses rythmes et notamment de ses rythmes biologiques, ça va permettre à ce cerveau de bien se construire et d'arriver à l'âge adulte avec tout ce qu'il faut pour réussir sa vie.
L'enfant ressent, mais est-ce qu'il y a une responsabilité des parents que nous sommes dans les pleurs de bébé? Parfois, il y a des parents un peu inquiets, qui ont tendance à trop se lever, qui ont tendance à aller voir, revoir, et du coup on réveille, et du coup c'est reparti.
Oui, alors c'est un petit peu le propos qu'il y avait au colloque avec Oriane, c'est de dire, eh bien aujourd'hui on va accompagner les pleurs du bébé, on va pas forcément stopper les pleurs du bébé, sachant que 70% de ces pleurs n'ont pas une connotation organique ou une explication organique et on dit qu'on va accompagner les pleurs du bébé.
Oui, Oriane Chérier, précision, je vois en train de sourire.
Oui, bien sûr. Après, par rapport au comportement des parents, les comportements vont être liés aux représentations que les parents ont des pleurs. Mmh. Donc effectivement, c'est important de changer les représentations des parents en leur donnant des connaissances sur le cerveau de l'enfant pour qu'il puisse réagir de façon différente aux pleurs et pas se sentir trop
moins s'inquiéter, par exemple.
Oui, ouais. Par exemple, on sait qu'au niveau anatomique, on ne peut pas associer les pleurs à une action volontaire et consciente de la part de l'enfant. Donc l'enfant ne fait pas exprès de pleurer, on ne peut pas associer ça à un caprice. Soit une volonté d'embêter le parent. Mmh. Donc à partir du moment où on sait ça, ça change aussi la perception qu'on va en avoir et le comportement qui va en découler du côté du parent. Et on sait aujourd'hui que les enfants, ils fonctionnent selon un cycle stress-détente, enfin comme chacun d'entre nous. Et le problème, c'est que quand ils sont en état de stress, pour arriver à un état de détente, bah, ils peuvent pas, comme nous, aller courir, appeler un ami, boire un verre, fumer une cigarette, etc. Donc du coup, le seul moyen qu'ils vont avoir pour revenir à cet état de détente, c'est de pleurer. Parce qu'il y a des études qui ont montré que la composition des larmes est différente, en fait.
C'est comme une cocotte minute. C'est la soupape
Exactement.
De sécurité lâche,
ouais.
Et du coup,
c'est ça. C'est comme une soupape de sécurité. Donc, la composition des larmes est différente si on pleure parce qu'on a coupé des oignons,
par
des
larmes d'irritation. On a analysé les larmes de bébé.
Ouais, ouais. Tout à fait. Ah ouais. Aux États-Unis, Dr. Frey, dans le Minnesota, qui a fait ces recherches-là et qui a montré que dans les larmes liées à la tristesse, il y a des hormones de stress. Donc, le fait de pleurer permet au corps d'évacuer ces hormones de stress par les larmes.
Donc, des toxines qui sortent de l'organisme du tout petit, donc là il y a une réelle fonction, j'allais dire totalement naturelle.
Une fonction de décharge.
L'être humain est très bien fabriqué. Donc,
c'est incroyable. Ouais. Moi, plus j'avance mon métier, plus je trouve ça absolument incroyable de voir cette adaptation en permanence de notre organisme aux situations. Et je prends parfois l'exemple d'une maman, par exemple, qui décide de bricoler chez elle, son mari est à côté, mais elle a envie de bricoler, elle prend son marteau et elle tape et malheureusement, elle a raté le clou, mais elle s'est tapée sur les doigts.
Ça fait très
mal. Alors, dans notre société, les hommes n'ont pas vraiment le droit de pleurer, les femmes, elles ont encore le droit de pleurer, et donc la dame se met à pleurer. Qu'est-ce que va dire son mari à côté? Il va lui dire, écoute, arrête quoi, c'est rien du tout, tu nous embêtes avec tes pleurs. Ou il va la prendre dans les bras et puis lui dire, vas-y, pleure, oui, je suis là, quoi.
Vous voyez,
la réconforter. Mmh. Or, avec les bébés, ce qu'on fait, c'est arrête tes pleurs, quoi. Mmh. Ça suffit.
On a tendance à les prendre dans les bras en faisant chut, chut, chut.
Et toi, c'est
pas ça qu'on fait avec les adultes.
Allez, ne soyez pas timide si vous écoutez l'émission. Vous avez certainement, j'en suis sûr, des souvenirs à nous raconter sur vos enfants qui ont pleuré, comme tous les bébés. Ou si vous avez aujourd'hui des enfants, je pense aussi aux grands-parents qui gardent peut-être des bébés là, en cette période de vacances. Vous avez des questions sur les pleurs des tout-petits. 05 56 19 10 10 avec Oriane Chérier, qui est psychologue clinicienne à l'Institut Michel Montaigne, et le docteur François Secato, pédiatre. Vos appels au 05 56 19 10 10, à tout de suite.
France Bleu. Sur la route des vacances, France Bleu Gironde à vos côtés. Circulation en temps réel, prévision de trafic, itinéraire de délestage. D'Arcachon à Bordeaux, de Carcan à Lacanau, de Soulac à l'Espart-Médoc, on fait la route ensemble dès que nécessaire.
Partageons le tour avec Radio France.
400 000 km, c'est environ la distance de la Terre à la Lune. C'est aussi celle que les pelotons du Tour ont parcouru depuis sa création avec 105 éditions.
Depuis 1903, le Tour visite les grandes villes et les villages, le littoral et les montagnes. Le pont du Gard, les châteaux de la Loire, la cathédrale d'Albi ou le Mont-Saint-Michel, le Tour réalise le plus complet des guides de voyage au rythme de ses champions.
Le Tour de France, du 6 au 28 juillet, avec Radio France.
France Bleu présente les suppléments d'été de l'Obs. 11 éditions de 24 pages pour des vacances d'exception dans 11 magnifiques régions. Bio, zen et authentique. Un guide de vacances, mode de vie orienté nature, bien-être et exploration du patrimoine. Toutes les activités et bonnes adresses, du Luberon au Pays Basque en passant par la Bretagne, la Normandie et la Corse. Disponible en juillet et en août, les suppléments d'été de l'Obs, un coup de cœur France Bleu.
France Bleu. corps engagés. Du 23 au 27 juillet, dans les rues, jardins et théâtres de Périgueux, les artistes s'approprient les grands sujets d'actualité. Fenêtre incandescente ouverte sur le monde pour nous questionner, partager des valeurs de solidarité, rire et rêver malgré tout. Esprit libre, corps engagés, bienvenue au 37e Mimos, le plus grand festival des arts du mime et du geste d'Europe. 05 53 53 18 71. Mimos.fr.
France Bleu Gironde. Les experts France Bleu Gironde. Jusqu'à 9h40, 05 56 19 10 10.
Et ce matin, comprendre et accompagner les pleurs des tout-petits. Le point sur nos connaissances actuelles, donc sur ce vaste sujet, avec Oriane Cherrier, vous êtes psychologue, et le docteur Françoise Secato, pédiatre. Vous nous le disiez il y a quelques instants, donc on connaît maintenant les fonctions principales de ces pleurs des tout-petits. Une fonction d'attachement, fonction de détente, une façon aussi d'évacuer le stress. Reste à gérer une fois que le stress de bébé s'exprime, le stress des parents. Et là, c'est plus compliqué.
Exactement, c'est pour ça que ça peut être intéressant de venir en parler lors des ateliers. Mais oui, il y a cette fonction de décharge dont on a parlé juste avant. Et puis aussi une fonction qui est très importante, et là aussi ça va permettre aussi de gérer le stress des parents, la fonction d'attachement. C'est-à-dire que quand le bébé pleure, il appelle en quelque sorte les adultes pour qu'ils viennent auprès de lui, s'occuper de lui. C'est une fonction de survie aussi, puis sur le bébé n'est pas capable d'assouvir ses besoins seul. Et la façon dont l'adulte va du coup répondre à ses pleurs va permettre à l'enfant de se dire qu'il est accepté de façon inconditionnelle finalement par son parent, même s'il pleure. Donc c'est vraiment une belle occasion pour le parent de montrer à quel point l'enfant est important pour lui. Et ça va permettre à l'enfant progressivement de construire une image de lui très positive, une image de l'autre et du monde aussi positive, sachant que s'il est en détresse, s'il a besoin, il y a quelqu'un qui sera là pour lui.
Il y a souvent des reportages sur les pingouins, et les pingouins reconnaissent leur petit. Alors pourtant un pingouin, c'est difficile de différencier le pingouin X du pingouin Y. Pourtant, dans des tribus de pingouins, de milliers de pingouins, papa pingouin ou maman pingouin reconnaît immédiatement au cri son bébé. Ce serait pareil si nous on vivait en meute importante.
On voit ça dans les maternités quand le petit bébé vient de naître. Les mamans qui n'ont pas leur bébé dans leur chambre et qui entendent le bébé dans la nurserie
sont capables d'identifier si c'est leur
bébé. La plupart du temps, elles identifient leur bébé. Après, ce qui est intéressant, ce sont ces pleurs qui arrivent quand le bébé a 15 jours. Il rentre de la maternité, ça va à peu près, et puis le bébé a 15 jours, 2 semaines de vie, et là, il se met à pleurer. Et ça dure à peu près un mois et demi, 2 mois. Et c'est plutôt le soir. Les gens nous disent souvent, oh là là, le soir, il se met à pleurer. On a tout fait, on l'a changé, on lui a donné à manger, on a fait attention à la température, on l'a pris dans les bras, il continue à pleurer.
Angoisse nocturne, c'est quoi, non ?
Et bien, les chronobiologistes nous disent que c'est l'installation du rythme circadien, c'est-à-dire du rythme jour-nuit, qui est profondément humain. Le jour, on est réveillé, la nuit, on dort. Et ce rythme s'acquiert petit à petit. Et pour s'acquérir, il est possible que, effectivement, le bébé ait ses pleurs du soir. Et donc, on n'y peut pas grand-chose, si ce n'est accompagner et sécuriser le bébé en lui disant que ça va passer. Il va attraper, à un moment donné, son rythme jour-nuit et ça va aller.
Et finalement, il y a une très belle expression des parents, c'est on dit souvent d'un enfant, ça y est, il fait ses nuits. C'est bon.
Il ne
pleure plus.
Voilà.
Ouais.
Quand on se dit il fait ses nuits, ça veut dire que le bébé ne réveille plus les parents. Pour se rendormir, parce que le bébé a un train du sommeil comme les adultes, un peu différent, mais comme les adultes, et le bébé se réveille régulièrement dans la nuit, et quand il est capable de se rendormir tout seul, effectivement, il ne réveille plus les parents peuvent dire, ça y est, il fait ses nuits.
Et les parents aussi, donc. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oriane Cherrier, vous parliez de ces ateliers donc destinés aux jeunes parents pour apprendre justement à mieux comprendre et décrypter les pleurs de bébé. Comment ça se passe concrètement, un atelier à l'Institut Michel de Montaigne?
Alors, il y a à la fois des apports théoriques, du coup, des dernières connaissances des neurosciences, etc., qui permettent de changer les représentations qu'on a.
Et ça se fait en groupe de plusieurs parents?
C'est des groupes d'une dizaine, douzaine de parents à peu près.
Avec bébé ou sans bébé?
Alors, sans les bébés.
Sans les bébés.
Pour l'instant. On verra plus tard si ça évolue. Mais pour l'instant, c'est sans les bébés pour pouvoir être quand même
concentré, disponible,
pour pouvoir avoir toutes ces connaissances-là. Donc, des apports théoriques qui permettent de changer les représentations et ensuite des discussions entre parents qui permettent d'échanger des trucs et idées, des astuces, des choses qu'ils peuvent utiliser entre eux.
On entend beaucoup d'âneries ou on entend à peu près?
Non, souvent les questionnements des parents sont légitimes. On rigole aussi.
Ouais.
Ce sont des moments aussi très agréables à ce niveau-là. Il y a parfois aussi des petites expérimentations où on va faire des petits exercices, des jeux de rôle, où on se met à la place des enfants pour se rendre compte de ce que ça fait d'être un enfant et de ce qu'on leur fait vivre, parfois avec les meilleures intentions, mais avec parfois pas les bonnes méthodes.
On permute les parents aussi, papa prend la place de maman et inversement?
Oui, ça peut se faire aussi. Et puis, puis après, il y a effectivement des petits outils qu'on peut apporter, sachant qu'il n'y a pas de recette miracle et de baguette magique, mais en tout cas des petits outils, des petites choses qu'on peut essayer à la maison pour accompagner au mieux les enfants, comme par exemple dans les moments de pleurs, garder le bébé dans les bras sans le bercer, parce que s'il s'agit d'un besoin de pleurer, que l'enfant a vraiment besoin de pleurer pour évacuer du stress, si on l'interrompt dans ce besoin de pleurer, l'enfant va s'arrêter de pleurer parce qu'on fait diversion, parce qu'on lui donne une tétine, parce qu'on fait quelque chose comme ça, et ce besoin de pleurer va être du coup réprimé et va ressortir plus tard, à un moment où ça n'aura peut-être pas moins de sens pour le parent, de savoir pourquoi le bébé pleure. Parce que finalement, on a souvent tendance à chercher des raisons à l'ici, dans l'ici et maintenant. Pourquoi bébé pleure? Est-ce qu'il a faim? Et des fois, le bébé peut pleurer pour décharger des stress qui ont lieu la veille ou quelques jours avant, quelques semaines avant. Donc voilà.
Et qui ne sont pas liés à la faim, à la fatigue.
Exactement. Donc l'idée, c'est de pas réprimer les pleurs du bébé. Si on a identifié à ce moment-là que le bébé avait vraiment besoin de pleurer pour décharger ce stress, donc le prendre dans les bras, le regarder dans les yeux, lui parler en lui disant qu'on est là, qu'on l'accompagne, même s'il pleure, c'est ok, il peut pleurer le temps qu'il a besoin. On reste auprès de lui.
Alors une question en une minute avant de marquer une petite pause au docteur Françoise Secato. Autrefois, on avait l'impression que l'éducation, c'était peut-être un peu plus à la dure. Moi, j'ai des souvenirs de grand-mères qui parlent à leurs filles ou petites filles par rapport à ces problématiques, hein, de bébé pleure et je n'arrive pas à gérer, et qui leur disent, bah, écoute, moi, à mon époque, on se préoccupait pas de ce genre de questions, ça fonçait tout droit. Ces ateliers, finalement, donc, comme ceux qu'on peut découvrir et auxquels on peut participer à l'Institut Michel Montaigne, c'est sur prescription médicale, vous sentez des jeunes parents un peu désemparés, et oui. Là, vous leur dites, vous dites, c'est la solution pour eux.
En tout cas, on a dans nos cabinets de pédiatrie, ou à la PMI, ou les puéricultrices, ou tous les professionnels qui s'occupent d'enfants, on a ce souci d'enseigner aux parents la façon de faire aujourd'hui pour préparer nos enfants à ce qu'ils ont à vivre dans leur vie demain.
Donc et on peut pas éduquer aussi, des parents peut-être désemparés parce qu'ils ne trouvent pas d'aide justement auprès de leur propre mère ou grand-mère.
Il faut bien voir que notre époque, c'est la nôtre, c'est pas celle du siècle dernier, et donc au siècle dernier, on éduquait les enfants pour ce qu'ils allaient vivre dans les années suivantes. Et nous, notre époque, c'est la nôtre, elle a changé. Et on peut pas éduquer aujourd'hui les enfants, on peut pas se conduire aujourd'hui avec les enfants comme on faisait autrefois. Parce que nos enfants d'aujourd'hui, ils entrent dans un monde différent et il faut les préparer à ça. Et c'est compliqué pour les parents parce qu'il n'y a pas forcément d'exemple. Par exemple, on a des écrans partout en ce moment.
On va en parler dans la suite de l'émission.
On va en parler tout à l'heure parce que l'époque a vraiment changé. Et oui, quand les gens sont désemparés, on les invite à se faire aider. Ben, ça peut être dans des ateliers de parentalité, ça peut être avec des psychologues, des psychomotriciens.
Sur prescription médicale, vous les prescrivez ces ateliers ?
Ça peut être sur prescription médicale. D'accord. Et surtout, nous, dans nos cabinets, c'est prendre du temps avec les parents.
Bien, et voilà. Nous on prend du temps ce matin à la radio sur France Bleu Gironde dans Les Experts pour partager donc avec vous évidemment donc les connaissances d'Oriane Cherrier et du docteur François Secato autour des pleurs de bébé. Suite de l'émission dans un instant, juste après, une chanson qui convient parfaitement à l'émission d'aujourd'hui. Toutes les machines ont un cœur, voici Maëlle.
France Bleu Gironde. Ordinateur sur les machines, on passe des heures.
toutes les machines ont un cœur, Maëlle, sur France Bleu Gironde à 9h37.
Les experts France Bleu Gironde. Vos questions, rendez-vous sur la page Facebook de France Bleu Gironde.
Et nous parlons des pleurs de vos enfants ce matin avec nos experts sur France Bleu Gironde. En direct, Oriane Cherrier, qui est psychologue clinicienne, et le docteur François Secato, pédiatre et auteur. On évoquait ces écrans, vous nous le disiez l'une et l'autre tout à l'heure, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le monde de nos parents et encore moins le monde de nos grands-parents. Les écrans, justement, qui sont partout. On entend d'ailleurs souvent, alors on entend tout et n'importe quoi, notamment, il existe aujourd'hui des programmes qui peuvent calmer les... Voilà, mettez un écran, un iPad à côté de bébé avec un programme, une appli particulière, ça va le calmer. Ça existe, ça marche ou ça ne marche pas?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a découvert récemment que le bébé tout petit est complètement hypnotisé par le regard de l'adulte, souvent sa mère, quand il tète au sein de sa mère, et ce regard qui est brillant et qui bouge tout le temps. Et nos concepteurs d'écran font un peu la même chose pour capter notre attention, qu'on soit adulte ou enfant, avec des écrans qui sont brillants et qui bougent tout le temps. Et effectivement, il y a des gens qui se sont dit, en donnant presque à la place du regard de la mère ou du papa, un écran qui bouge tout le temps et qui est brillant et puis qui fait du bruit, l'enfant va être capté, effectivement, ça capte son attention, et l'enfant va cesser de pleurer, par exemple, au moment des pleurs de l'enfant.
Donc il y a des gens qui ont testé des applications destinées à limiter, freiner les pleurs de bébé, par exemple.
Mais pour le bébé, en réalité, c'est une catastrophe. Au niveau cérébral, il faut bien voir qu'on a le même cerveau qu'on avait dans les grottes préhistoriques, et on était loin d'avoir des écrans à l'époque. Et ce cerveau, pour se construire, on a parlé tout à l'heure de l'immaturité, pour qu'il se construise bien et qu'il devienne bien mature, il a des besoins. Et un des besoins essentiels du cerveau, c'est cette bienveillance qu'on va trouver dans le regard du parent, dans les bras des parents, cette sécurisation qu'on ne va pas trouver avec un écran.
Et là, vous tirez vraiment le signal d'alarme. Attention à l'utilisation des écrans
chez les tout petits. Chez les tout petits, c'est une catastrophe. Ouais. Moi, je vois tous les jours des enfants extrêmement agités dans mon bureau, et une bonne partie de ces enfants sont devant des écrans de façon répétée et inadaptée, avec des programmes qui ne comprennent pas du tout, avec des choses qui sont pas du tout adaptées aux enfants.
Ça donne des ados qui comprennent plus rien après aussi. Hein.
Alors, en tout cas, pour les ça donne une mauvaise construction du cerveau, avec des enfants qui arrivaient à l'âge de 3 ans n'ont quasiment pas de langage et ont un comportement plutôt agressif et plutôt en retrait. Donc oui, il faut alerter les familles, attention à ne pas laisser des écrans à la disposition des enfants, surtout des tout petits.
Oui, genre le bébé qui commence à être assis tout seul, qui se maintient en position assise, on ne le laisse pas donc sur un tapis de sol avec un écran, avec la télé allumée.
Non, c'est une catastrophe pour la construction du cerveau du bébé.
Oui, les recommandations aujourd'hui, c'est pas d'écran avant 3 ans. L'écran n'apporte aucun bénéfice pour l'enfant, ni pour la construction de son cerveau, ni pour la construction de son intelligence. L'enfant a uniquement besoin des adultes là auprès de lui et de vivre simplement sa vie tous les jours auprès de ses parents pour se construire. Il a uniquement besoin de ça et pas d'écran.
Alors les écrans également, source d'information, et sur les écrans, on lit tout et n'importe quoi, parce que souvent, au lieu de passer un coup de fil directement à son pédiatre, on va se connecter sur monpédiatre.com et finalement, on n'a pas forcément les mêmes réponses d'une plateforme à l'autre.
Il y a des sites quand même qui sont recommandés. Par exemple, on a le site des pédiatres français qui s'appelle Mpédia, où il y a des informations très vérifiées. On a un site libournais, d'une pédiatre libournaise qui s'appelle monpédiatre.net. Mmh. Ça aussi, c'est un site qui est à recommander aux parents. Vous avez Naître et Grandir, qui est un site canadien, pareil, avec toute une équipe de professionnels de l'enfance qui écrivent dessus. Et ça, pour les parents, ce sont des sites avec des sources d'informations vérifiées. Par contre, ce sont des sites pour les parents, mais ce ne sont pas des sites pour les enfants. Ce n'est pas d'écran pour les enfants.
D'accord.
Pour les tout-petits.
Dernière partie de l'émission. Dans une minute, on marque une toute petite pause et justement, on va voir comment réagir en pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les bons comportements à avoir quand votre bébé se met à pleurer?
Avec Pierre et Nature, nous visitons Blanquefort, sa forteresse, son château et ses parcs, avec les commentaires de l'historien local Jean Lafitte.
Pierre et Nature sur France Bleu Gironde avec José Ruiz, demain à 11h. France Bleu Gironde, partenaire des événements de l'été. Du 26
6 au 28 juillet, Sauveterre fête ses 20 ans. Concours, musique, intronisation. Du 29 juillet au 3 août, les échappées musicales du Médoc. Jusqu'au 24 août, le spectacle historique de Castillon-la-Bataille. Castillon 1553. 600 bénévoles racontent la fin de la guerre de 100 ans. Les infos dès maintenant sur francebleu.fr. France Bleu Gironde, la radio de votre été.
France Bleu Gironde.
Et à 9h42, trafic en Gironde. Retour sur vos conditions de circulation qui s'annoncent difficiles pour aujourd'hui. La journée classée rouge dans le sens des départs et des conditions de circulation qui sont déjà compliquées. Si vous êtes sur l'autoroute A10 entre le pont de la Dordogne et le pont d'Aquitaine en direction donc de Bordeaux, le trafic reste ralenti sur Cubzac, les ponts en Barrès, c'est la Grave, Sainte-Eulalie et Bassens. Et puis les premières hostilités également sur l'autoroute de Bayonne, l'autoroute A63. C'est chargé dès la sortie de la Rocade à hauteur de Gradignan jusqu'à la sortie Miours-Marche-Prime en direction des Landes et du bassin d'Arcachon.
Un problème sur la 10, la 63, la 62, la 89. Vous êtes nos patrouilleurs. 05 56 19 10 10.
Et à 9h43, dernière ligne droite dans les experts sur France Bleu Gironde ce matin. Les pleurs de bébés, comment les comprendre, les décrypter, puis surtout, comment réagir justement ce matin avec le docteur François Secato et notre psychologue clinicienne, donc Oriane Chérier, spécialiste. Vous avez longtemps travaillé sur les pleurs de l'enfant et sur l'attachement, les problématiques d'attachement. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Là, il y a peut-être des jeunes parents qui nous écoutent. Bébé a pleuré toute la nuit, ils se réveillent, ils ont les yeux ici. Concrètement, c'est quoi la bonne attitude à avoir?
Alors, si bébé a pleuré toute la nuit, quand même, il faut s'interroger pourquoi le bébé a pleuré toute la nuit.
Hein. Là, ça peut valoir
Quand même. Ouais. Hein, se demander s'il est malade, pas malade. S'il y a quelque chose qui le dérange à ce bébé. S'il y a un moustique aussi toute la nuit qui a embêté le bébé. Là, on est plutôt sur l'idée des pleurs du bébé, des pleurs le soir ou des pleurs dans la journée qu'on ne comprend pas trop. Hein, alors là, que faire? Eh bien, c'est surtout garder le contact avec son enfant, contact physique, contact par le regard, lui parler, le prendre dans les bras, rester avec lui le temps qu'il en a besoin et ne pas chercher à arrêter les pleurs du bébé, mais bien soutenir le bébé et bien expliquer au bébé qu'on est là, de toute façon qu'on sera toujours là quand ça sera difficile pour lui.
Donc on n'est pas sur « laisse-le pleurer ».
Alors l'idée c'est que si à ce moment-là le bébé a besoin de pleurer, ça peut être bien de le laisser pleurer, en tout cas de lui permettre de pleurer, mais pas tout seul, en l'accompagnant, en restant avec lui. L'idée, quand on est sûr que c'est pas une histoire de faim, de douleur, de fatigue, etc., l'idée c'est pas de stopper les pleurs à tout prix, mais vraiment de les accompagner dans leur fonction de décharge et de retour à la détente, et de rester avec l'enfant le temps qu'il en a besoin. Après, on est d'accord que c'est très difficile à faire.
Ouais.
Et notamment pour les familles monoparentales où on est tout seul avec l'enfant, ça peut être très compliqué. Si on a un relais, ça peut être bien de le faire. Mais si c'est trop difficile, c'est sûr que quand on sent qu'on arrive à un débordement soi-même et qu'on peut pas gérer, vaut mieux peut-être laisser effectivement l'enfant dans son lit si besoin.
Vous parliez de famille monoparentale,
ouais.
C'est parfois aussi très difficile quand on élève un enfant à deux,
ouais,
parce
aussi,
que parfois il y a l'un des parents qui a plus tendance à s'accaparer l'enfant, qui veut pas le lâcher, alors que cette tâche, elle pourrait justement être partagée avec un meilleur équilibre.
Oui, tout c'est vrai que c'est important d'avoir un relais, de pouvoir passer le relais, mais encore faut-il avoir la même représentation de ce qu'on va faire face aux pleurs du bébé, si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est ce qu'on travaille dans les ateliers aussi, parce qu'on incite les gens vraiment à venir ensemble en couple pour se mettre d'accord sur la façon dont ils veulent intervenir dans ces cas-là pour leur enfant.
Bon, et pour
et on a le droit de ne pas y arriver. On a le droit de ne pas savoir faire, on a le droit de ne pas y arriver. Mmh. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à appeler. On a les enfants sont en crèche, hein, parler au personnel de crèche,
justement,
en PMI.
Comment est-ce qu'on peut se faire aider justement par toutes ces structures?
À la PMI, on a des médecins et des puéricultrices de PMI, on a les
pédiatres.
Il ne
faut pas avoir honte de poser des vraies questions.
Non. Ouais. Vraiment, le courage, c'est de poser des questions et voilà. Si on n'y arrive pas, il n'y a pas de honte à ne pas y arriver, c'est normal, on n'a pas la science infuse. Et on a des personnes pour nous aider, bien sûr. Il ne faut pas hésiter.
Pour finir, il y a quelques livres. Alors, je recite les vôtres, évidemment, le 1 à 3 ans. Docteur François Secato chez Mango. Vous avez également une petite sélection de livres également à nous proposer. Notamment le livre d'Aleta Solter, Pleurs et colères des enfants et des bébés. Évidemment, il y a des sites internet, on va les redonner. Donc
Alors, il y a Mpédia,
oui.
C'est le site des pédiatres de proximité, de ville, on va dire, des pédiatres libéraux. Et il y a monpédiatre.net. qui est un site fait par une pédiatre libournaise.
Merci à toutes les deux, en tout cas, merci d'être venues. Oriane Chérier, psychologue à l'Institut Michel de Montaigne. On vous reverra, je l'espère, bientôt. Merci docteur François Secato. Et puis, dans tous les cas de figure, bel été avec vos bébés et bonnes vacances.
Merci,
bonne journée. Et retour des experts sur France Bleu Gironde. Demain dimanche, nous serons avec Raymond, conseil jardinage, de 9h à 9h45.
FranceBleu.fr, podcaster ou réécouter les experts du jour.